Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le JT Foot, l'émission 100% TFC. Au sommaire d'aujourd'hui, on reviendra sur la 7ème défaite d'affilée du TFC face à Strasbourg, 4-2 en Ligue 1. Un revers supplémentaire pour les joueurs d'Antoine Comboiré qui plonge au classement avec une 20ème et dernière place. Avec nos chroniqueurs autour de la table, on se demandera si la situation du TEF est véritablement inquiétante. Et tout cela à deux matchs de la trêve hivernale. On parlera également du prochain match, samedi au Stadium face à Reims. Une rencontre peut-être déjà capitale pour l'avenir du coach Antoine Comboiré. Et comme d'habitude, on présentera les traditionnelles récompenses aux joueurs du TFC. Thomas vous présentera les meilleures déclarations foot de la semaine et on terminera par le quiz préparé avec amour par notre cher Axel. Allez, trêve de bavardage, le JT Foot, c'est parti! Et aujourd'hui, autour de la table, Corentin et Nicolas sont avec nous. Alors les gars, comment ça va?
Bah écoute, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des émissions, le moral est de moins en moins haut, mais on essaye un peu d'aller, là, mais c'est compliqué.
Ouais, j'avoue, c'est ce que j'allais vous demander. Pas trop déçu après la nouvelle désillusion en Alsace, du coup?
Je sais pas si on peut encore être déçu, mais en tout cas, c'est sûr que ça pourrait aller mieux.
On verra tout ça en tout cas. Allez, de suite, on passe au TEF Actu, le résumé de la semaine violette préparé par Axel.
Bonjour les gars, bonjour à tous. Le TEF connaît enfin son adversaire pour les 32e de finale de la Coupe de France. Les Violets vont affronter Saint-Privé-Saint-Hilaire Club de National 2. Un déplacement périlleux dans le Loiret pour le premier week-end de janvier. Le match pourrait être déplacé à Orléans. Un TFC qui devra donc se méfier de ce déplacement car les Violets sont une des plus mauvaises équipes à l'extérieur de la Ligue 1. Depuis août 2018, le TEF a gagné 4 matchs à l'extérieur sur les 28 possibles. Et ce n'est pas mieux en 2019 où les hommes de Comboiré en enregistre une victoire, 5 nuls et 12 défaites en dehors du stadium. La dernière victoire, c'était au Costières, désolé Hugo, à Nîmes, avec un but de Sanogo en janvier dernier. Pire total du club depuis 1999 et pire total de L1. En attendant, le prochain match de Toulouse, c'est samedi contre Reims. Et une question se pose, qui en défense centrale après la suspension de Nicolas Isimat-Mirin? En l'absence de Gonçalves, Shoji et peut-être Diakité, l'entraîneur Kanak devrait déplacer Amiens dans l'axe et profiter du retour de suspension du joueur préféré de Corentin, Steven Moreira.
Ça fait plaisir ça.
Une bonne note pour les anciens joueurs du TEF. Christopher Julien a inscrit le but de la victoire pour le Celtic Glasgow en finale de la Coupe de la Ligue écossaise dimanche dernier. Devenu titulaire indiscutable avec son club, Christopher Julien rentre également dans le cœur des supporters vert et blanc. Et puis un peu de réseaux sociaux et Mathieu Dossévi qui déchante. L'attaquant togolais s'est fait pirater son compte ce week-end. Une image noire avec un geste obscène remplace sa traditionnelle photo de profil Twitter et toutes ses photos Instagram ont été effacées. Une enquête de la part du club est encore en cours. Voilà, c'est tout pour cette FAQ et c'est déjà pas mal.
Merci Axel. Allez, il est désormais temps de passer à l'analyse du match. Continue cette émission avec ce qui devient maintenant une mauvaise habitude, il faut bien l'avouer. Une nouvelle et inquiétante défaite du TFC sur la pelouse de la Méno à Strasbourg, 4-2 pour la 17e journée de Ligue 1. Tout avait pourtant bien commencé pour les Violets, puisqu'à la suite d'un corner mal dégagé par la défense alsacienne, c'est Nicolas Isimat-Mirin qui ouvre le score dès la 3e minute. Alors on se dit que le TEF est bien parti dans cette rencontre, mais satisfaction de très très courte durée car l'ami Koné égalise de la tête sur un coup franc de Liénard à la 7e minute. Moins de 20 minutes plus tard, c'est Adrien Thomasson qui se retrouve seul face à Baptiste René à la réception d'un centre et qui double la mise au point de pénalty. Le TFC est alors déjà en danger et au retour des vestiaires, c'est au tour d'Ajorc à la 48e de faire le break 3-1 sur une tête décroisée au premier poteau. Mais comme un boomerang, on peut se dire que Wesley Saïd, 2 minutes plus tard, redonne immédiatement de l'espoir au TEF suite à un jeu à 4 dans la surface strasbourgeoise. Un répit qui est néanmoins de courte durée puisque la défense violette se fait une nouvelle fois punir par Motiba à la 75e. Alors score final 4-2 et 7e défaite consécutive pour les joueurs d'Antoine Comboiré en 8 matchs de championnat pour le coach Kanak. Les Violets sont donc plus que jamais lanterne rouge au classement, 20e avec 12 points, avec 11 défaites en 17 matchs. Alors même si rien n'est perdu au classement avec Metz, on le rappelle, 18e et barragiste à seulement 3 points, que faut-il retenir de ce nouveau revers à Strasbourg selon vous? Une bonne entame, un mieux au niveau de l'attaque ou alors la passivité défensive des Violets les gars?
Bon bah là, même avec, on se rend compte que même avec une bonne entame de match, Toulouse n'arrive pas à...
Ça faisait longtemps d'ailleurs qu'il n'y avait pas une bonne entame. Hein.
Oui, ça faisait très longtemps. D'habitude, c'est eux qui prennent les buts en premier. Bon, pour une fois, ils ont marqué. Malheureusement, quelques minutes après, ils encaissent ce but. Là, c'est dommage. Franchement, encore une fois, là, on peut viser la défense, comme Boiré les vise aussi en conférence de presse. C'est très préjudiciable.
Est-ce qu'on peut
Il y a eu du jeu un peu côté toulousain. Hein. Pour une fois, on a vu quelques bonnes choses. Il y a eu des occasions, mais c'était trop par réaction. Et moi, j'ai surtout envie de retenir les 4 buts encaissés avec encore une fois une défense catastrophique.
Ils ont pris l'eau. Hein. C'était passe en profondeur sur la droite ou sur la gauche. Silla ou...
les latéraux, ils se sont fait déborder
complètement.
Lala et Lianard, ils se sont régalés les deux sur les centres. Il y en a un pour Ajorque pour le troisième but qui est magnifique. Moi, je vais surtout retenir la défaite et je vais retenir le manque de mental aussi parce que c'est pareil, tu fais une bonne entame pour une fois, puis 3 minutes après, tu concèdes déjà l'égalisation. Et avec une défense pareil, c'est pas possible,
C'est ce que j'allais vous dire, les gars. Un manque de concentration évident, notamment dans la gestion du score. Quand on mène 1-0 comme ça, est-ce que se faire reprendre aussi vite, c'est vraiment une erreur de débutant?
C'est impardonnable, c'est impardonnable, surtout dans la situation de Toulouse. Là, ils peuvent pas se permettre d'en prendre un derrière, et un deuxième et ensuite d'essayer de revenir. Mais... en prendre 4 là derrière, c'est quand même assez préjudiciable, sachant que Rogel a encore été inefficace.
Izimat Miran, c'était pas terrible non plus.
Izimat, malgré son but, ça lui a même pas donné la confiance qu'il faut pour défendre derrière. Il a été complètement largué dans les duels.
Et 3 buts, notamment de Strasbourg, qui ont été marqués quasiment en point de pénalty à chaque fois. Donc on peut se demander, vraiment, les problèmes de placement en défense centrale sont toujours pas résolus.
Ah mais il y a vraiment des buts où, si tu regardes la ligne défensive, il n'y en a aucun qui est placé correctement, il n'y en a aucun qui fait la bonne intervention. De toute façon, quand t'es 4 défenseurs sur les mêmes actions réussissent à se louper tous en même temps, tu peux pas espérer tenir. Mais parce qu'en plus, il y a 4 buts, mais franchement, il n'y a pas eu 4 occasions strasbourgeoises, il y en a eu bien plus que ça.
Ils auraient pu en marquer d'autres, franchement. Après, sur la première mi-temps, c'était à sens unique, Strasbourg, ils ont vraiment attaqué, Toulouse n'a fait que défendre. Après, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de mieux en deuxième mi-temps, notamment pendant 15 minutes. Je crois que Toulouse a quand même essayé de jouer au foot. Ils ont essayé, c'est déjà pas mal. Ça a un petit peu combiné à l'image du but de Saïd. C'est quand même une belle action collective. C'est à souligner quand ils le font. Voilà, on va le dire quand même. C'est pas souvent, mais...
Avec un bel enchaînement, Gradel, Kolouri, Cécile.
Ouais, voilà. Donc c'est des très, attaques très appliquées. Donc ça, c'était sympa à voir. Mais le problème, c'est que il y a eu 15 bonnes minutes et ils ont pris un but derrière.
Et c'est ça. C'est qu'en fait, ça suffit pas.
En contre-attaque.
Contre Monaco, on a vu que il y a eu quelques temps forts, pas très longs, mais toulousains. Mais le problème, c'est que si tu regardes les 30 dernières minutes encore contre Monaco, c'est pareil. Monaco a un nombre d'occasions avec Rochel, de toute façon, comme samedi, pareil, festival de boulettes, même les passes, les relances, les dégagements, tout est fait de travers. Il n'y a rien qui va.
C'est catastrophique, Rochel, il faut le dire. Franchement, ce
intelligence
joueur,
de jeu, placement, vitesse.
On ne sait pas qui l'a recruté, où est-ce qu'ils sont allés le chercher, mais franchement, j'ai l'impression qu'il n'a même pas le niveau de la Ligue 1, quoi. Ça, c'est
Après, pour lui, il a pour lui que peut-être il a été mis un petit peu sur le devant de la scène. On rappelle, il a été blessé plusieurs mois, donc directement mis titulaire.
Oui, mais le problème, c'est qu'il a été recruté pour être titulaire. Et d'ailleurs, tout début de saison, préparation et surtout tout début de saison, il commence titulaire. Shoji et lui se blessent, et après, c'est là où on a des problèmes.
C'est vrai que derrière, il n'y a personne en fait.
Puis Diakité est blessé aussi, mais.
Persuadé qu'il n'est pas titulaire, s'il y a Shoji et derrière.
D'ailleurs, c'est pour toutes ces blessures-là qu'Issimat Mirin a été pris en prêt en express, un peu en urgence, pour pallier les manques défensifs. Mais Issimat Mirin, je trouve qu'il ne fait pas le boulot non plus. Non. Alors, c'est pas aussi dramatique que son compère uruguayen, mais c'est quand même pas terrible.
Il va sérieusement falloir réfléchir au mercato hivernal à recruter un nouveau défenseur central quand même, peut-être
un latéral gauche aussi, parce qu'on n'a pas de doublure non plus.
Ce sera un autre débat plus tard.
Voilà, et on rappelle donc l'absence d'Izimat Mirin aussi pour le match de samedi face à Reims. Et on passe de suite aux récompenses de la semaine, magret, violette, saucisse, il y en aura pour tous les goûts. Allez.
Vous allez peut-être être surpris par ma saucisse.
Allez, on commence alors. Corentin, ton magret, le meilleur joueur du match pour toi côté toulousain?
J'ai envie de donner le magret à Saïd, qui a fait un plutôt bon match à mon sens. Il a eu quelques éclairs, il a été plutôt dangereux, il a mis un joli but. Et puis comme j'ai pas trouvé énormément de joueurs toulousains exceptionnels sur cette rencontre, c'est lui que j'ai envie de récompenser, parce que j'ai trouvé que c'est lui qui s'était démarqué.
Ouais, ok. Allez, Nico, à toi.
Moi, j'ai mis Sangaré pour son match au milieu de terrain. Il a quand même mis de l'impact et il commence à revenir un petit peu là. Donc je mets Sangaré. Je pense qu'il va être décisif pour les matchs du TEF prochainement.
Déjà très bon contre Marseille, Sangaré d'ailleurs.
Ouais. Ok, ouais, qui revient bien dans cette fin de première partie de championnat. Allez, on continue avec toi, Nico, ta violette, le meilleur espoir.
Bah, j'ai mis Saïd, allez, c'est la recrue, une des recrues les plus chères de l'histoire du TEF. Il a marqué son but, la plus chère avec 8 millions d'euros.
Recruté à Dijon, on rappelle.
Ouais, c'est ça, mais bon, allez, on va mettre Saïd. Il n'a pas non plus fait un match exceptionnel, mais là, il a quand même marqué un but. On va essayer de l'encourager en espérant qu'il y en ait d'autres derrière.
Ok. À toi, Coco.
Moi, je la donne à Dosevi, cette violette. Il fait un match égal à lui-même. Il se bat beaucoup au milieu et il met quelques bons centres. Alors après, il y a des défauts. Je trouve qu'il a encore trop tendance à s'excentrer systématiquement pour centrer. Il a une très bonne capacité de centre. J'aimerais bien qu'il rentre un peu plus. Mais globalement, je trouve que sa performance était plutôt honnête. Et c'est vrai que j'aurais pu la donner à Sangaré aussi.
Ok, et enfin la saucisse pour terminer, les gars.
Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je pense qu'on est d'accord avec Coco, c'est Rogel. Hein, il n'a pas sa place de titulaire, malheureusement. Il est titulaire parce qu'il n'y a personne derrière. Donc mais pour moi, il n'a pas le niveau.
Ouais, et Rogel, je lui donne doublement parce qu'il y a eu deux matchs cette semaine. Il y a eu Monaco aussi et que vraiment, il nous fait une double performance phénoménale. J'ai rarement vu ça. Hein, donc
c'est triste.
Il n'y a aucun débat. C'est Rogel encore une fois. Et je pense que s'il continue à jouer, il risque de l'être encore un certain nombre de fois.
Et oui, donc vous êtes d'accord pour mettre le défenseur sud-américain donc, comme pire joueur de ce match. Alors, on va essayer de voir un peu plus loin justement. On finit les débats avec le match de samedi soir au Stadium face à Reims. C'est plutôt une équipe en forme, l'équipe de Champagne, qui vient de s'imposer face au Vert 3-1 à domicile. Alors, il reste sur 3 nuls avant cette victoire face au Vert. Mmh. Mais ma question est simple. Si jamais ça se passe mal pour le TEF, est-ce que Comboiré est déjà sur la sellette moins de 2 mois après son arrivée au club ?
Voilà, oui, ça fera beaucoup ça quand même. Là, beaucoup, on est déjà à 7 matchs, 7 défaites. Je pense que là, contre Reims, si le TEF venait à perdre, Comboiré, c'est clairement sur la sellette.
Ouais,
après, est-ce qu'ils ont des solutions derrière ? Est-ce qu'ils ont des contacts ?
Alors, je pense que de toute façon, des solutions, il y en a. Mais par contre, moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense que... En fait, moi, avec 7 défaites consécutives, je l'aurais déjà viré, Comboiré, même 6. Le bilan est trop maigre et trop catastrophique pour le conserver. Donc, il aura déjà dû sauter. Et je pense que cette défaite contre Reims... Et parce que je pense qu'il va y avoir des défaites, mais on y reviendra après.
Voilà, dans le futur déjà.
Mais en tout cas, en cas de défaite contre Reims, je pense que ça ne changera rien à son sort et que s'il doit y avoir décision prise le concernant, ce sera fait à l'intersaison vu qu'il y aura encore un match à jouer, un match de Coupe de la Ligue et un match de championnat. Et je suis même pas sûr qu'à l'issue de ces deux matchs, connaissant les dirigeants toulousains, ils décident de le licencier. Mais ça, c'est une autre question.
Mais pourtant, on avait vu que ça avait bien commencé plutôt avec Lille, avec Lyon, il y avait du jeu quoi. Les deux premiers matchs, après, ça s'est vite étiolé, non ?
Mais il y a des matchs où il y a du jeu, mais en fait. Le problème, c'est qu'il y en a où il n'y a aucune envie, il y en a où il y en a, mais derrière la défense, c'est trop affreuse. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas.
Je trouvais qu'il n'y avait rien, à part le premier match contre Lille où il y a eu un petit coup de fouet de son arrivée.
Le reste, il y a eu quelque chose.
À Lyon, défaite à la dernière minute, on rappelle.
Rennes aussi, ils ont montré des choses. Alors après, c'est le mental qui était encore remettre en question. Mais c'est ça aussi, moi, le problème, c'est que Comboiré, on sait que ce n'est pas un tacticien, ce n'est pas un technicien, et que s'il doit avoir un impact sur son groupe, c'est plutôt en ce qui concerne le mental. Et force est de constater que ça fonctionne pas.
Ça marche pas le mental. Donc s'il n'y a pas le mental ni la tactique derrière, là, c'est vraiment compliqué pour lui.
De toute façon, on n'était déjà pas très fan quand on a vu Comboiré arriver avec ce qu'il y avait d'autre sur le marché. C'est le genre d'entraîneur, Comboiré, qui fait le tour des clubs de Ligue 1 et propose toujours
les mêmes
choses.
Le combat, c'est important, comme il le répète, c'est important le combat. Mais si derrière, il n'y a pas de tactique, après, bon, voilà, c'est vrai qu'il n'a pas tous les joueurs à disposition en défense non plus, comme on l'a dit, mais bon. C'est vrai que c'est très pauvre tactiquement et il n'y a pas beaucoup de jeux.
Pour l'instant, pas comment ils peuvent s'en sortir. Pas de plus par rapport à Casanova. Quoi.
Je trouve qu'il y a quand même un peu plus d'envie qu'avec Casanova, mais c'est quand même pas. Ça suffit pas.
C'est pas folichon. Ouais. Surtout qu'on rappelle le calendrier qui est plutôt chargé. Donc samedi, réception de Reims à domicile pour la 18e journée de championnat. Ensuite, un déplacement en semaine à Lyon en Coupe de la Ligue et un dernier match en phase aller pour ce championnat de Ligue 1 à Nice.
Et je pense qu'ils vont le laisser filer contre Lyon. De toute façon, parce qu'à un moment, il faut se concentrer sur le maintien. C'est déjà un match t'as presque aucune chance de gagner.
Reims, c'est clairement la priorité. Là.
Après, Reims punisse dans la foulée.
Ça semble qu'il y a un paradoxe avec cette équipe de Reims, c'est qu'ils sont très bons contre les équipes du top 10 de Ligue 1, Mais par contre, contre les équipes de deuxième moitié de classement, ils sont beaucoup moins bons. Hein. On
mais
a vu,
ils sont pas sur un immense momentum, les Rémois. Hein. Ils ont une victoire sur les 5 dernières rencontres. Alors, c'était le dernier match, c'était ce week-end contre Saint-Étienne, qu'ils ont imposé 3-1. Mais Reims, c'est pas sur un immense momentum. Après, c'est comme une meilleure équipe que le TFC.
Ouais,
et quand je vois la défense toulousaine, je crois pas.
Ils se payent quand même le luxe de jouer sans Rémi Houdin, qui était le meilleur joueur.
Il était titulaire au dernier match.
Ouais, mais il a pas beaucoup joué cette saison quand même.
C'est un bloc très très solide, l'équipe de David Guillon, on rappelle. Donc, merci messieurs pour vos avis toujours aussi tranchés et avisés sur notre équipe du TEF qui est bien mal en point, on l'a bien compris. Et donc on passe directement à la rubrique de Thomas, le top d'éclat. Alors Thomas, qu'est-ce que tu as à nous présenter ce week-end?
On va commencer du coup avec ce top d'éclat, avec la conférence d'après-match d'Antoine Comboré à l'issue de Strasbourg-Toulouse.
Pour creuser l'écart, on n'est pas loin, donc on a 3 points, c'est bien ça. Donc on se dit on est catastrophique, mais il y a toujours beaucoup de matchs. Donc qui dit beaucoup de matchs, beaucoup de points. Qui dit beaucoup de points, et puis les adversaires qui sont là à portée de fusil.
Ouais, catastrophique, c'est le mot malheureusement. On enchaîne avec un monument du football français, Giroud, qui a totalement craqué sur l'équipe 21 par rapport à l'absence de Marquinhos, qui a préféré assister à la naissance de son deuxième enfant.
Marquinhos, bientôt papa, c'est beau. Paris est un grand club. Va mon petit, c'est la naissance.
C'est les hommes qui accouchent. Il n'y a pas de médecin à Paris pour accoucher cette dame. Il y a des millions de Français, depuis les Gaulois et même avant, qui ont des Françaises qui ont accouché dans des huttes.
Il va donner les seins après Marquinhos. Hein. Non, c'est comme ça, maintenant c'est lui qui va donner les seins.
Tout simplement lunaire. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais pour moi c'est un peu à cause justement de ce type de propos honteux, soit dit en passant, que le foot passe pour un gros sport de bof.
C'est assez limite, ouais.
Giroud, c'est un vieux de la vieille.
Hein. Et voilà, et Giroud, moi ça fait un moment qu'on l'entend à chaque fois en émission, on a l'impression quand même qu'il a plus toute sa tête, il devient gâteux, donc bon, c'est pas... Je sais pas si vraiment il faut s'affoler de ce qu'il dit, il faut juste l'ignorer.
Faut-il commenter ça?
Ouais, après c'est pas le seul, ça le problème, c'est que même Bertrand Latour enchaîne tout ça.
C'est vrai qu'il est pas tout
Marquinhos
seul.
Marquinhos donne le sein, mais bon. Bref, l'équipe interne d'ailleurs a présenté ses excuses. Hein.
Il était à Strasbourg d'ailleurs pour le match contre le TF, on l'a aperçu dans les tribunes.
Très bien, bon, en tout cas on enchaîne, en parlant de respect, on enchaîne avec le Montpelliérain, Andy Delors, qui a été assez agacé par le comportement de Neymar.
Là je le trouvais un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde et... C'est dommage ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit que c'était un grand joueur, mais qu'il fallait qu'il respecte les gens. Je pense que c'est ça le plus important quand t'es quelqu'un de bien et que tout le monde, entre guillemets, t'idolâtre. Eh bien, dégager du respect, dégager une bonne éducation, c'est important.
Pas sûr que ça fasse plaisir au PSG. Donc, déclaration là aussi assez ambiguë, sachant que c'est un joueur qui aime bien provoquer lui aussi sur le terrain quand même.
Ouais, c'est clair. Mais bon, en tout cas, c'est tout pour ce top d'éclat. J'espère que la semaine prochaine, ce sera un peu moins scandaleux.
Ok, merci à toi et rendez-vous, donc, comme tu l'as dit, la semaine prochaine pour un nouveau tour du monde des déclarations dans la planète foot. Et enfin, on termine cette JT Foot avec le traditionnel quiz et l'indémodable donc... Allez, on termine donc avec le quiz présenté par notre rookie Axel. Alors, c'est parti, on t'écoute. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors, comme vous l'avez rappelé, cette défaite à la Méno est la 7e d'affilée en championnat pour les Violets. Donc, mes questions vont porter sur les pires séries de défaites de l'histoire du football. Un quiz qui devrait faire plaisir à la Fédération française de la Loose, à mon avis.
Ouais, c'est sûr. Allez, on t'écoute.
Allez,
première question.
Quelle équipe détient le record du nombre de défaites consécutives en Ligue 1?
C'est pas Grenoble?
Grenoble.
Ouais, c'est Grenoble, c'est ça. Vous savez en quelle année?
2009,
c'est 2009.
Putain, bien joué.
Et petit tour de table, à votre avis, combien de défaites d'affilée pour Grenoble?
C'était 14?
On va dire 11. 13.
16.
C'était 12 défaites.
12 défaites.
Le Grenoble avait commencé sa saison 2009-2010 par 12 défaites consécutives, soit le pire début de saison en Ligue 1. Et ils avaient d'ailleurs égalé le record établi par le Cercle Athlétique de Paris en 1933-1934. Mais je ne vous l'ai pas demandé parce que vous le saviez forcément.
Ça, ouais. Ah oui, ouais, on maîtrise vachement.
Ça remonte.
Les années 30.
Pour rester en Ligue 1, deuxième question. Lors de la saison 2007-2008, un promu avait conclu son année par 11 défaites et un retour mérité en Ligue 2. Est-ce que vous pouvez me dire de quel club il s'agit? Ce n'est pas Metz.
2007-2008.
Un promu qui a
Qui avait fini sa saison par 11 défaites.
Arles Avignon.
Non.
Alors l'Avignon, je crois que c'était le début qui était compliqué.
Quand? Alors c'était une équipe qui était entraînée par Jean-Marc Furlan.
Non. Le Mans.
Toujours pas.
Oh là.
Et elle avait été notamment. Oui, Strasbourg, c'est ça.
Strasbourg.
Avec James Fanchon et Kevin Gamero en attaque.
Ah oui.
C'est ça le problème, c'est que Furlan, il a entraîné un certain nombre de clubs en Ligue 1 lui aussi.
Allez. Troisième question.
Dernière peut-être. Ou avant-dernière.
Il y en a quelques-unes encore, mais on va faire vite.
T'inquiète.
Une question en première ligue. Lors de la saison 2002-2003, quel club avait terminé sa saison par 15 défaites d'affilée?
2002-2003.
Ils sont toujours en première ligue?
Cette saison, je ne crois pas.
Portsmouth.
C'est une équipe qui est coachée par Mick McCarthy. Et dans l'effectif, il y avait notamment David Bellion, Kevin Kilbate.
Ah,
Sunderland.
Sunderland, c'est ça.
Sunderland. Oh là là, je suis bon dans la loose là.
Sunderland, qui avait,
club historique.
Qui, avec sa série de 15 défaites, avait fini dernier du championnat et relégué. Un petit peu plus pointu, celle-ci. On va aller sur l'équipe de France. Est-ce que vous savez à combien s'élève la pire série de défaites de l'équipe de France?
Alors là,
la pire série de défaites, 6
10
Allez.
Alors, je reconnais que c'est dur parce que c'était au début du XXe siècle.
Oula,
18 matchs.
23.
C'était non, un petit peu moins, Corentin. C'était une série de 12 défaites d'affilée entre 1908 et 1911. Elle avait débuté par un cinglant 12-0 contre l'Angleterre.
Ah, sympa ça. Ah. Contre les Anglais, on adore.
Surtout, ouais.
Mais bon, c'était une autre époque, hein, une époque où on pouvait encore perdre face à la Belgique.
Ah, ah oui.
Voilà, le fameux seum belge.
Et cinquième et dernière question, on va revenir sur le TEF pour finir ce quiz. Sa série actuelle n'est pas la première, puisqu'il avait déjà, il avait déjà réussi à enchaîner 7 défaites d'affilée. Est-ce que vous pouvez me dire en quelle année?
2005.
Ce que vous pouvez répéter?
99-2000.
Non.
2005.
C'est ça. En avril-mai 2005, l'équipe jouait alors... en avril, l'équipe jouait l'Europe.
C'est ça.
Et elle a enchaîné 7 défaites d'affilée et finit 13e.
Ouais.
Petite note positive du coup pour ce quiz, puisque malgré cette série de défaites, le TFC s'était maintenu en Ligue 1. On souhaite le même sort aux Violets cette année.
On le souhaite.
Oui, ce serait sympa.
On est tout cœur avec eux. Ouais.
On le souhaite. Merci à toi, Axel. Et c'est déjà la fin de ce nouvel épisode de JT Foot. Merci, messieurs, en plateau. Les deux, Axel et Thomas, ainsi que les chefs niveau technique, on rappelle Capucine et Julien. Donc, merci beaucoup à eux. Et on espère avoir été complet sur le TFC cette semaine, en tout cas. N'oubliez pas de nous retrouver la semaine prochaine. Vous pouvez d'ores et déjà regarder sur toutes les plateformes possibles et inimaginables de podcasts et écouter les émissions à la carte sur Spotify, Deezer, Apple et encore plein d'autres. Allez, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. À ciao, bonsoir.